Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Première vaccination en France à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Ce matin, une femme de 78 ans et un soignant ont reçu les premières injections. Top départ symbolique de la campagne vaccinale française. Nous serons sur place avec Mathilde Vinceneux dans un instant. Malgré cette nouvelle arme contre le virus saluée ce matin par Emmanuel Macron, le spectre d'un troisième confinement se rapproche. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'exclut plus cette possibilité et plusieurs élus, vous l'entendrez, appellent d'ores et déjà à des confinements locaux. Et puis, le scrutin présidentiel est en cours en Centrafrique où 1,8 million de citoyens sont appelés aux urnes. Une élection très perturbée par les groupes armés rebelles et l'ex-président Bozizé qui appelle au boycott. Reportage à Bangui à la fin de ce journal. Top départ des vaccinations en France. Une femme de 78 ans a reçu la première dose du vaccin Pfizer dans le pays. Une première injection effectuée à l'hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis où une vingtaine de personnes âgées et de soignants doivent être vaccinées aujourd'hui pour ce lancement symbolique de la campagne vaccinale française. Mathilde Vinceneux, vous êtes sur place et tout s'est bien passé pour cette première citoyenne vaccinée.
Oui, hein, c'est sous les flashs des appareils photos, les lumières des caméras que Morissette, 78 ans, a enlevé son gilet, découvert son bras gauche pour recevoir l'injection dans l'épaule.
Pas de panique.
Allez, on y va, vous êtes prête?
Allez-y.
Hop. Ça va?
C'est bien.
Très bien.
Ça va.
Aïe. On a fini, ma belle.
Tout s'est bien passé? Ça a été?
Très bien, ça a été?
Très bien, très bien.
Parfait.
Alors, depuis que j'en ai eu.
Mais là, ça va, ça ne chauffe pas?
Ah, c'est parfait.
Bon, très bien.
Et je serais émue.
Bah oui, vous avez raison.
Vous êtes la première à être vaccinée en France.
Oui.
Un honneur.
Voûte Morissette, un doux sourire, donc heureuse d'être la vedette du jour. 9 patients au total de cette unité de soins longue durée ont reçu l'injection, tous volontaires. Et un médecin aussi, le tout premier soignant, un cardiologue de 65 ans. Il a eu une pensée émue pour tous ses collègues qui sont décédés à cause de cette pandémie ou qui sont tombés malades. Ce vaccin, pour lui, c'est un espoir de lutter enfin efficacement contre le virus.
Mathilde Vinceneux en direct de l'hôpital René Muret à Sevran. Emmanuel Macron réagit à ses premières vaccinations. Nous avons une nouvelle arme, le vaccin. Passons le message à nos aïeuls et protégeons-les en priorité, écrit le président de la République sur Twitter. D'autres vaccinations sont prévues cet après-midi à Dijon, toujours auprès de personnes âgées volontaires et de soignants. Et à noter que c'est la quasi-totalité des pays européens qui lancent officiellement aujourd'hui leur campagne vaccinale. C'est le cas notamment en Espagne où une femme de 96 ans a été vaccinée ce matin. De son côté, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca affirme avoir enfin trouvé la formule gagnante pour son vaccin développé avec l'université d'Oxford. Le régulateur britannique doit se prononcer à son sujet dans les tout prochains jours. Ce vaccin est très attendu car relativement peu coûteux, un tout petit peu plus de 3 euros la dose. Et il peut être conservé surtout dans des congélateurs conventionnels et non à moins 70 degrés comme celui de Pfizer. Face aux chiffres de contamination qui ne fléchissent pas en France, avec 15 000 contaminations détectées par jour en moyenne, Olivier Véran n'exclut plus un troisième confinement. Le ministre de la Santé l'a confié ce matin au JDD. L'objectif des 5 000 s'éloigne et les mesures nécessaires seront prises si la situation devait s'aggraver, explique le ministre. Et ces derniers jours, plusieurs élus appellent à reconfiner localement. Les maires de Reims et de Nancy, notamment, souhaitent mettre sous cloche la région Grand Est dans les tout prochains jours. Pas du goût du maire de Colmar, Eric Stroman, qui espère de son côté un reconfinement plus ciblé par département. Écoutez.
À l'intérieur des grandes régions, il y a des disparités très fortes d'un département à l'autre. On l'a constaté lors du premier confinement. Par exemple, on avait fermé les Ardennes alors que les Ardennes avaient des très bons chiffres. Donc moi, je plaide plutôt à des fermetures à l'échelle des départements pour répondre de manière la plus précise possible à l'évolution de cette pandémie, même si on sait, et je l'ai écrit dès le mois de novembre, que probablement on va repartir vers des épisodes de reconfinement au mois de janvier, tout simplement en observant les courbes d'oscillation de la pandémie. On voit bien, lorsqu'il y a un retrait, à un moment donné, ça va repartir aussi longtemps que la météo n'aura pas changé, qu'il fera froid et humide, et aussi longtemps que le vaccin ne fonctionnera pas. Les deux départements alsaciens ont été très très touchés. D'ailleurs, c'est pour cette raison probablement qu'on a aujourd'hui moins de décès qu'ailleurs, puisque il y a certainement un phénomène d'immunité collective qui a joué sur la marge.
Le maire de Colmar, Eric Stroman, au micro de Victor Maté. Et signe de l'incertitude qui pèse encore sur la situation sanitaire dans les mois qui viennent, le ministère de l'Éducation nationale vient de signer une ordonnance portant sur l'organisation du baccalauréat et d'autres examens. Le gouvernement va pouvoir en adapter les modalités en fonction de l'évolution de l'épidémie, et ce, jusqu'à jusqu'à 2 semaines avant le début des épreuves. Ces modifications pourront porter à la fois sur la nature des épreuves, le nombre, leur contenu, leur coefficient ou encore leurs conditions d'organisation. Certaines épreuves pourraient même s'effectuer de manière dématérialisée. Une mesure inacceptable pour Sophie Vénétité, la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.
Il faut s'imaginer que depuis le début de l'année, on prépare des épreuves du baccalauréat, et que 15 jours avant, on va vous dire, finalement, on change la date ou on change les règles du jeu. Ça veut dire que pendant des mois, vous vous êtes préparé à une épreuve bien précise, à une date bien précise, et au dernier moment, on vous dit, finalement, ça va pas se passer comme ça. Quand vous êtes professeur et que vous préparez vos élèves pour une échéance particulière, une date précise, quand vous êtes élève de 17 ans et que vous vous préparez au baccalauréat, c'est quand même facteur de stress, cette improvisation permanente. Donc oui, il faut modifier le bac 2021. Nous, on demande notamment que les épreuves qui sont prévues au mois de mars, elles soient repoussées au mois de juin pour se laisser un peu de sérénité, pour pouvoir préparer comme il faut ces épreuves-là. Mais là, se donner les possibilités de changer au dernier moment des épreuves du baccalauréat, finalement, ça ne fait que consacrer l'improvisation permanente qui règne au ministère de l'Éducation nationale.
Sophie Vénétité, la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, au micro de Soisigbourg. Le scrutin présidentiel est en cours en Centrafrique. 1,8 million de citoyens sont appelés aux urnes. Une élection très perturbée par les groupes armés rebelles qui veulent empêcher sa tenue et contrôlent 2/3 du territoire. Et puis ce matin, l'ex-président François Bozizé, dont la candidature a été annulée par le Conseil constitutionnel, a officiellement apporté son soutien à la rébellion et appelé à ne pas voter. Laissez Touadéra seul aller déposer son bulletin dans les urnes, a-t-il déclaré, en référence au président sortant, candidat à la réélection. Le reportage de Charlotte Cosset dans la capitale Bangui.
6 heures, le matériel arrive dans le bureau, les agents se dépêchent de tout installer. Gervais Fernandez Ngouté est le président de ce bureau de vote.
Ça se passe très bien ici. Le petit retard, c'est dû par rapport aux moyens logistiques de transport. Le bureau du démembrement du 7e arrondissement a un seul véhicule. Ça ne pourrait pas redéployer toutes les matériels dans un centre. Voilà le petit retard qu'on avait eu ce matin.
Dehors, les files d'attente sont longues. Certains attendent depuis 5 heures pour voter. Pour Ernest, c'est très important.
C'est un devoir civique. Il faut voter pour que le pays soit en paix. Parce qu'il y a trop de désordre. Il ne faut pas prendre le pays par les armes. Il faut aller au vote pour que le pays soit stable. Ça me plaît beaucoup. Je suis venu tout le matin pour voter. Sans ça, je ne peux pas venir. Parce que je suis content de voter aujourd'hui.
Malgré les craintes sécuritaires, Adeline a tenu à faire le déplacement.
Les groupes armés, là, présentement, je suis un peu inquiète par rapport aux groupes armés, mais par rapport à toutes les précautions qu'ils ont prises, je sais que ça va aller aujourd'hui.
À Bangui, ce matin, malgré quelques retards, aucun incident n'est pour l'instant signalé. En province, des problèmes sécuritaires ont été relevés dans plusieurs villes.
Le reportage à Bangui de Charlotte Cosset. Le Niger vote également ce dimanche pour élire son président. Un scrutin qui doit déboucher sur une première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays marqué par les coups d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Près de 30 candidats sont en lice avec un grandissime favori, Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou. Il promet de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment pour les jeunes filles, alors que ce pays détient le record mondial de fécondité avec une moyenne de plus de 7 enfants par femme. Par ailleurs, certains spécialistes de la région soulignent l'absence de renouvellement de la classe politique avec 2 anciens présidents et 2 anciens premiers ministres parmi les candidats pour une moyenne d'âge de plus de 60 ans dans un pays à la population très jeune. Au Liban, un camp de réfugiés a été incendié hier soir dans le nord du pays par des membres d'un clan libanais. C'est le 2e épisode de vendetta dans le pays depuis fin novembre. Un pays qui accueille plus d'un million de réfugiés syriens selon les autorités. À Beyrouth, une correspondance de Laure Stéphane.
Sur les images qui circulent, il ne reste rien du camp de réfugiés syriens incendié hier soir dans le nord du Liban, hormis des carcasses de fer. Le sol est couvert de cendres. Ce camp abritait plus de 70 familles. Ceux qui y ont mis le feu se sont assurés de tout détruire. Ils ont incendié plusieurs abris en même temps, faits de bâches en plastique et de bois. Le feu a été aggravé par l'explosion de bonbonnes de gaz utilisées pour cuisiner par les réfugiés qui vivent dans des conditions misérables. Selon l'agence de presse nationale, des membres d'un puissant clan du nord du Liban sont derrière cet incendie. Les motifs de l'altercation qui a précédé la mise à feu restent encore confus. Des blessés parmi les réfugiés syriens qui habitaient le camp ont été transférés à l'hôpital. Au fil des années, plusieurs épisodes d'incendies criminels ont eu lieu en prenant pour cible des camps de réfugiés. Ces incidents sont toutefois restés limités, mais les tensions entre Libanais et Syriens sont allées crescendo. Les uns et les autres s'appauvrissent à toute vitesse avec la crise qui frappe le Liban. Cela fait craindre que les réfugiés soient de plus en plus pris pour bouc émissaire. Il y a un mois, des milliers de déplacés avaient été chassés d'une ville du nord du Liban après le meurtre d'un Libanais dont un gardien syrien a été accusé. Selon les agences de l'ONU, 90% des familles syriennes vivent aujourd'hui dans l'extrême pauvreté. Le Haut Commissariat aux réfugiés va prendre en charge ceux qui ont tout perdu dans l'incendie de la nuit dernière afin qu'ils retrouvent un logement.
Une correspondance de Laure Stéphan à Beyrouth. Nouvelle passe d'armes en Libye entre le maréchal Haftar qui contrôle l'est du pays et la Turquie, soutien du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. Le criminel de guerre, le meurtrier qu'est Haftar et ses forces doivent savoir qu'ils seront considérés comme des cibles en cas d'attaque sur les militaires turcs présents dans le pays, déclare le ministre turc de la Défense lors d'une visite dans la capitale libyenne. Des déclarations qui interviennent deux jours après l'appel du maréchal Haftar à chasser l'occupant turc. 12h40 sur France Culture, c'est l'heure de la face cachée avec Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Thomas. Cap sur Cuba qui entamera le 1er janvier une unification de ses deux monnaies, le peso cubain et le peso convertible qui étaient artificiellement alignés sur le dollar. Jeannette Abel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et spécialiste de Cuba. Cette réforme du système monétaire en vigueur depuis 26 ans s'accompagne certes d'augmentation du salaire minimum et des retraites, mais aussi de hausse des prix du pain et de l'électricité. Quel en sera l'impact sur le quotidien des Cubains?
Il fallait 24 pesos cubains pour un dollar. Maintenant, il n'y aura qu'une seule monnaie, mais cette unification monétaire équivaut à une dévaluation de fait du peso cubain. Tout cela va modifier et le salaire minimum, et les retraites, et le calcul de ce à quoi donnait lieu jusqu'à présent le carnet de rationnement. Donc, si vous voulez, c'est une mesure dont les effets peuvent être graves, y compris en termes de pouvoir d'achat. Elle est destinée aussi à favoriser les exportations, mais la conséquence la plus redoutée pour l'instant, c'est effectivement une hausse des prix. Et vous citez l'exemple de l'électricité, du pain, il y en a d'autres. Auparavant, il y avait un carnet de rationnement qui avait l'avantage de proposer aux Cubains à des prix subventionnés une alimentation de base. Désormais, ce carnet de rationnement est beaucoup plus limité. Et donc, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui n'ont pas accès aux devises et aux dollars à Cuba parce qu'ils n'ont pas de famille à l'étranger, ça risque de rendre la situation plus difficile.
D'où un mécontentement que l'on sent poindre sur les réseaux sociaux et même dans certains articles de la presse d'État.
À partir du moment où on maintient, où on ouvre des boutiques, où l'on peut avoir accès à des biens électroménagers, informatiques, etc., à condition de payer avec une carte de crédit et avec des dollars, ça ne concerne qu'une petite minorité de la population. Et donc, il y a un vrai mécontentement à cet égard, parce que ça aggrave les différences sociales dans cette société qui n'est pas habituée, qui en tous les cas n'y a pas été habituée jusqu'à une époque récente. Ça se cumule, si vous voulez, avec le fait que s'il y a, comme ça semble déjà être le cas, une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat, ça donne à ces mesures d'unification monétaire un caractère très risqué.
Merci à vous, Jeannette Abel. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Cet entretien est à retrouver dans son intégralité sur notre site. Et puis, une palette de couleurs dans cette chronique avec un carnet de voyage assez particulier. Virginie Broquet a fait le tour des représentations diplomatiques françaises à l'étranger. Son livre, publié aux éditions de La Martinière, s'intitule « Sur la route des ambassades de France ». De Vilnius à Rangoon, en passant par Rome, Istanbul ou Beyrouth, une quarantaine de lieux se dévoilent à travers les croquis colorés de l'illustratrice. Au micro de Christian Chéneau, elle avoue avoir eu un coup de cœur pour l'ambassade de France à Bangkok.
Ma préférée, hein, vraiment, celle où j'aimerais habiter, c'est Bangkok. Parce qu'elle a ce côté Marguerite Duras, Elle est sur le bord d'un fleuve et j'y suis allée au moins quatre fois dessiner la même vue sur la même terrasse. Mais à chaque fois, c'était quatre ambassadeurs différents. Et de fait, elle était du coup décorée différemment, on va dire. Donc c'est la subtilité que j'aimais bien de refaire ce dessin, qui en même temps était complètement envoûtant parce qu'il y a ce fleuve qui passe qui s'appelle le Chao Phraya et qui nous emmène loin en fait, haut et loin. Et il y a des odeurs, il y a des sons, il y a un flux incessant de bateaux de tous les côtés. C'est vraiment une ambiance magique. Et la maison aussi, la bâtisse est très belle. Elle n'a cessé d'évoluer. Ils sont partis d'une toute petite maison et petit à petit, elle a évolué en une belle grande maison coloniale. C'est magnifique. C'est vraiment sublime.
À dimanche prochain.
C'était la face cachée avec Nabila Hamel. Un mot de la météo pour vous dire que la vigilance orange au vent violent est terminée pour le Finistère et la Manche. 5 départements sont toujours en revanche en vigilance orange pour neige, verglas, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme. Sinon de la pluie cet après-midi sur tout le territoire à l'exception des Pyrénées, de la façade méditerranéenne et de la Corse. Les températures iront de 3 à Strasbourg jusqu'à 11 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé avec Julien Loquet. À la technique, Audrey Guélil. Médical.